Le journal d'Émilie Momentaler.
Bonsoir. Un résident du centre fédéral d'asile de Bure était agressé à l'arme blanche cet après-midi lors d'une altercation. Blessé au cou, il a dû être opéré. Deux suspects ont été identifiés. Une absence remarquée, aucun membre du gouvernement jurassien n'était présent aux obsèques de l'ancien ministre Gérald Chalère le 28 décembre dernier. Le député Rémi Meury demande pourquoi le règlement protocolaire n'a pas été respecté dans une question écrite déposée au Parlement. La saison d'hiver est perturbée pour le tennis dans la vallée de Delémont. Les 5 terrains de la Croisée des loisirs sont fermés le temps de la rénovation du site. Le centre de formation Impact Tennis a dû trouver des solutions de repli dans la région. Météo, le ciel sera nuageux demain matin avant de laisser percer de belles éclaircies. Les températures restent fraîches avec des maximales à 2 degrés en plaine, tout comme aux Franches-Montagnes. Le centre fédéral d'asile de Bure a été le théâtre d'une agression à l'arme blanche cet après-midi. Un résident a été pris à partie par d'autres résidents du lieu, selon une information communiquée par le ministère public. Blessé au cou, l'homme a dû subir une opération à l'hôpital. Vos précisions, Raphaël Chalvera.
Oui, selon les premiers éléments de l'enquête, un coup de couteau a été donné à la hauteur du cou de la victime suite à une première altercation physique. Après avoir reçu des premiers soins par des agents de la police cantonale, l'homme a été transporté à l'hôpital et a subi une opération chirurgicale. Ses jours ne sont pas en danger. Les investigations ont permis d'identifier deux suspects qui ont participé à l'agression. Ils seront déférés au ministère public demain. Une procédure pénale pour tentative de meurtre a été ouverte. Des investigations complémentaires sont en cours pour établir les circonstances précises des faits, notamment la cause de l'altercation et les mobiles des prévenus.
Merci Raphaël. Le transfert de Moutier dans le Jura démarre son chemin aux Chambres fédérales. La commission des institutions politiques du Conseil des États a décidé à l'unanimité de soutenir l'arrêté fédéral qui permet le changement de canton. C'est ce qu'indique un communiqué publié aujourd'hui. Elle s'est également prononcée sur un point lié à la péréquation financière, Cyprien Lovie.
La commission des institutions politiques du Conseil des États a refusé, par 9-3, une proposition portée par Charles Juillard. Le centriste jurassien demandait de prévoir, dans l'arrêté, une solution différente sur la péréquation financière de celle prévue dans le concordat signé par les deux cantons. La question est d'importance puisqu'elle porte sur une somme de 65 millions de francs pour les finances cantonales jurassiennes. La majorité estime que ce point doit être réglé dans le cadre de la procédure ordinaire de modification des règles. Il est transmis à la commission des finances du Conseil des États qui évaluera la nécessité d'agir ou non. La ministre jurassienne des Finances, Rosalie Burécis, prend acte de cette décision. Elle constate que le chemin est compliqué pour trouver une solution et espère que les chiffres pourront être adaptés dès le 1er janvier 2026 et ainsi éviter le manque à gagner de 65 millions pour les finances jurassiennes sur la période 2026-2031.
Merci Cyprien. La commission du Conseil national doit se prononcer sur le même objet à la fin janvier. Les deux chambres statueront sur le transfert de Moutier lors de la session de printemps. Les obsèques de l'ancien ministre Gérald Chalère ont donné lieu à une absence qualifiée de remarquée et de gênante par Rémi Meury. Le député CS Pop a déposé ce mardi une question écrite sur le sujet. Aucun membre en activité du gouvernement n'était présent à la cérémonie qui s'est tenue le samedi 28 décembre, soit pendant les vacances de fin d'année. L'exécutif cantonal était représenté par le chancelier d'État qui a prononcé l'hommage du gouvernement au défunt. Rémi Meury souligne que Jean-Baptiste Maître a indiqué dans son allocution qu'aucun ministre n'avait pu se libérer pour assister à la cérémonie. Pour le député CS Pop, cela pose problème. François Comte.
Rémi Meury se dit choqué par l'absence de membres en fonction du gouvernement aux obsèques de Gérald Chalère. Il rappelle qu'il existe un règlement protocolaire qui date du 16 août 2022 et qui prévoit la marche à suivre lors de tels événements. Le document découle de la LOGA, la loi d'organisation du gouvernement et de l'administration cantonale. Il fait ainsi mention de la présence d'une délégation du gouvernement aux obsèques d'un ancien ministre, de même qu'une allocution de son président. Ces deux points n'ont manifestement pas été respectés, indique Rémi Meury. Le député CS Pop souligne également que la LOGA prévoit que le président du gouvernement est remplacé en cas d'empêchement par le vice-président et que si ce dernier est aussi absent, c'est le doyen d'âge de l'exécutif qui le supplée. Il n'est donc nullement question d'une suppléance assurée par le chancelier, souligne Rémi Meury. L'élu de Lémontin demande pourquoi le gouvernement n'a pas respecté le règlement protocolaire qu'il a lui-même édicté. Il souhaite aussi savoir plus généralement comment les membres de l'exécutif assurent une présence en cas d'urgence lors des périodes de vacances.
Le porte-parole du gouvernement n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Julien Ostetler précise que l'exécutif cantonal réserve sa réponse à l'auteur de la question écrite. Un accident de la circulation s'est produit ce matin, un peu avant 9h, sur l'A16 à la sortie du tunnel du Neubois, entre Bure et Boncourt. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, une automobiliste qui circulait en direction de Porrentruy a perdu la maîtrise de son véhicule. Elle a percuté un camion qui circulait normalement avant de terminer sa course dans la glissière de sécurité centrale. La conductrice souffre de blessures superficielles alors que le chauffeur du camion n'a pas été blessé. Le tunnel du Neubois a été fermé à la circulation durant environ 1h30. Et l'événement a été un véritable choc pour les entreprises. Le 15 janvier 2015, cela fait donc 10 ans, la Banque nationale suisse a décidé d'abandonner le taux plancher du franc par rapport à l'euro. Cette mesure surprise a eu de fortes répercussions pour l'industrie. Le taux plancher, instauré en 2011, avait pour objectif de maintenir la stabilité entre les deux devises, à savoir qu'un euro valait 1,20 franc. En Suisse, comme dans le Jura, les entreprises ont dû encaisser le coût et ont été contraintes de s'adapter à la situation. Le directeur de Wilma Macaudel à Delémont, Olivier Gly.
Les premières mesures suite à l'abandon du taux plancher, ça a été de travailler sur l'excellence opérationnelle, sur l'amélioration continue, sur la revue des processus, le faire encore de manière beaucoup plus volontaire parce que c'est par ce biais-là qu'on a pu gagner en efficience, en efficacité et récupérer une partie des marges que la force du franc nous avait fait perdre. Globalement, on essaie de se remettre en question en permanence, mais ça a été vraiment un kick phénoménal qui nous a obligés à revoir tous nos processus, nos façons de fonctionner. On ne travaille plus du tout aujourd'hui en termes de production, de développement comme on le faisait il y a 10-15 ans. D'une manière générale, les entreprises ont évolué, elles ne sont plus du tout les entreprises qu'elles étaient à l'époque.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ?
Dans l'industrie, il y a toujours une forte pression, mais aujourd'hui la concurrence, elle était déjà là à l'époque, mais la concurrence reste, le franc fort reste très fort. Une concurrence étrangère qui bénéficie lorsqu'elle vient en Suisse de ce franc. Ce qui a changé, c'est qu'il faut se remettre en question encore plus qu'à l'époque, questionner ses processus, questionner ses produits, questionner ses services. C'est clair que ça génère plus d'intensité dans le travail quotidien.
Des propos recueillis par Raphaël Chalvera. Un dossier complet sur la levée du taux plancher par la BNS il y a 10 ans est à retrouver sur rfj.ch. Il était un des artisans majeurs de la mise sur pied des hautes écoles spécialisées. L'ancien secrétaire d'État à l'éducation et à la recherche, Charles Kléber, est décédé la nuit dernière. Il avait 82 ans. C'est ce qu'ont annoncé cet après-midi plusieurs médias. Né à Moutier, cet architecte de formation avait également dirigé le CHUV durant 7 ans. Toutes les entreprises suisses doivent être exonérées de la redevance Radio-TV. Alors que l'initiative de l'UDC, 200 francs, ça suffit, le réclame, une commission du Conseil national soutient de justesse ce principe aujourd'hui. Le Conseil fédéral proposait de dispenser 80% des entreprises de la redevance. Quant au montant de cette redevance pour les ménages, il doit diminuer, mais la commission n'a pas arrêté de chiffres. Les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
On est visiblement encore loin d'un compromis sur le montant de la redevance Radio-TV à l'avenir et sur l'ampleur du financement public de la SSR. La majorité de la commission du Conseil national qui siégeait en ce début de semaine a arrêté trois principes par le plus petit des écarts, 13 voix contre 12. Elle veut élaborer un contre-projet à l'initiative de l'UDC pour une redevance à 200 francs. Comme l'initiative, elle veut exonérer toutes les entreprises et maintenir la quote-part de la redevance pour les radios et télévisions privées. Il faut maintenant rédiger le contre-projet et fixer le montant de la redevance pour les ménages. Ce devra être moins que les actuels 335 francs par an et forcément davantage que les 200 francs de l'initiative. La commission le fera en février. Peut-être se ralliera-t-elle aux 300 francs proposés par Albert Rusty. La commission du National a encore dit ce qu'elle ne voulait pas, le maintien de l'actuelle redevance à 335 francs, ainsi que le report sur la redevance des ménages des 170 millions de francs que représente l'exonération des entreprises. Et par 16 voix contre 9, elle ne veut pas non plus d'un changement de financement de la SSR par la TVA plutôt qu'une redevance. Le terrain est en partie défriché, mais l'option finale est encore floue.
De plus en plus de réfugiés ukrainiens intègrent le marché du travail en Suisse. Fin décembre, près de 12 300 personnes bénéficiant du statut S avaient un emploi. Des chiffres dévoilés aujourd'hui à Berne par des représentants des cantons et de la Confédération. Tous tirent un bilan positif des actions entreprises l'année dernière pour favoriser l'intégration des Ukrainiens. Mais l'objectif du Conseil fédéral n'est pas atteint. 29% des personnes au statut S travaillent, alors que le gouvernement s'était fixé 40%. Des résultats qu'il faut nuancer, c'est ce qu'estime Adrian Gerber, délégué à l'intégration professionnelle au département fédéral de justice et police.
Il faut aussi un peu différencier avec les chiffres. Les 40%, c'est pour le total. Alors, des gens qui sont là maintenant, il y a des gens qui arrivent et qui partent. Alors, peut-être 2/3 des personnes qui sont restées maintenant plus que 2 années. Si on regarde le taux d'activité de ces personnes qui sont là depuis 2 années, on est presque 40%, on est à 38%. L'intégration, c'est vraiment un processus, pas par pas, et puis c'est important de comprendre cette notion. Alors maintenant, c'est important que les réfugiés, ils font prendre le premier pas et commencent à travailler, même si le travail n'est pas de leur qualification, mais comme ça, ils entrent dans le marché du travail, ils peuvent s'avancer step by step.
Le taux d'emploi des réfugiés ukrainiens est particulièrement bas dans les cantons latins. Il se situe à 22% dans le Jura. Le type d'entreprise, le taux de chômage et les délais des administrations sont évoqués par les autorités pour expliquer cette différence. En France, François Bayrou a assuré aujourd'hui que son gouvernement allait remettre en chantier la populaire réforme des retraites de 2023 qui avait repoussé à 64 ans l'âge de la retraite. Une ouverture à gauche destinée à éviter une censure similaire à celle qui avait fait tomber le précédent gouvernement. Le Premier ministre s'est exprimé lors d'un discours de politique générale devant le Parlement.
RFJ, il est 18h12.
Sport. Les skieuses de la Coupe du Monde s'affrontent lors d'une épreuve nocturne. La première manche du slalom de Flarao a commencé à 17h45. C'est Katharina Linsberger qui fait course en tête sur la piste autrichienne. Elle devance la Suissesse Wendy Oldener de 75 centièmes et la Suédoise Sarah Hector de 94 centièmes. Du côté des autres Helvètes, Mélanie Meillard pointe au 5e rang, Camille Rast au 7e et Michel Guizin au 10e. La deuxième manche est prévue à 20h45. Dans la région, les travaux de la Croisée des loisirs à Delémont mettent en difficulté le fonctionnement d'Impact Tennis. Ce centre de formation utilisait les 5 terrains du site qui est actuellement fermé pour rénovation. Pour sa saison hivernale en indoor, Impact Tennis a donc été contraint de chercher des solutions auprès d'autres clubs de la région. Une solution de repli a pu être trouvée au tennis de l'avenir à Moutiers et à Seignelay-Gier, mais pas pour tous les cours. Impact Tennis a donc un grand nombre d'adhérents qui ne pourront pas jouer durant l'hiver. C'est ce qu'explique son responsable, Julia Gunzinger.
On savait que la saison d'hiver était menacée dans le sens qu'on ne pourrait pas occuper le centre La Croisée pendant toute la saison d'hiver. Et il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans la région. On a une structure quand même qui était assez importante, avec une bonne centaine d'enfants. Et les autres centres n'étaient pas capables d'accueillir une aussi grande quantité d'élèves, enfin de cours. Ce qui fait qu'on a dû abandonner la moitié des cours, pour se concentrer davantage sur les joueurs qui étaient, on va dire, plus engagés dans leur sport. À la fois les plus prometteurs, les plus engagés, ceux qui manifestent vraiment une envie plus ardente comme ça.
Tous les enfants qui ne s'entraînent plus à Impact Tennis, vous les avez perdus ou alors ils sont en stand-by, ils reviennent une fois que la croisée rouvre
Ça, c'est un peu l'inconnu. Je pense que pour la plus grande partie, on ne les reverra pas. C'est ça qui est dommageable, entre guillemets, pour une école de tennis, parce qu'elle vit aussi énormément de cette catégorie de joueurs, plus loisirs, plus découverte, mais qui fait vivre et qui procure des cours. Et ne pas pouvoir compter ou devoir se priver de cette clientèle-là, ça devient compliqué.
Julia Gunzinger répondait à Jérémy Pignard. Le responsable d'Impact Tennis appelle également une réflexion d'avenir pour un rapprochement des clubs jurassiens afin de mutualiser les coûts et les moyens. Interview complète à retrouver sur rfj.ch. Valeureux mais battu à Melbourne, Stan Wawrinka a été sorti dès le premier tour de l'Open d'Australie ce matin. Il s'est incliné devant l'Italien Lorenzo Sonego au terme d'un match serré. Défaite en 4 manches, 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 lors de cette première levée du Grand Chelem. Le Vaudois, qui aura 40 ans dans 2 mois, peut nourrir des regrets. Il a notamment raté 3 balles d'égalisation à 2 manches partout. Au moment d'analyser sa prestation, Stan Wawrinka oscillait entre la solidité du contenu et le sentiment d'avoir laissé passer sa chance.
Oui, il y a de la déception du match, c'est sûr. Dans l'ensemble, ça a été un bon match dans des conditions bien plus rapides sur les terrains là-bas. Je trouve que Lorenzo a très bien joué dans les moments importants. Il a su être très agressif. Moi, j'ai été un tout petit peu hésitant. J'ai eu des occasions au 3e, j'ai eu des occasions au 4e aussi avec des balles de 7. Malheureusement, c'est pas passé, mais encore une fois, dans l'ensemble, ça a été un match correct. Malheureusement, perdre des 7 serrés comme ça, c'est jamais évident. Je suis frustré et déçu de la défaite, forcément. On a toujours envie de gagner. Maintenant, c'était mon premier match de l'année. Dans l'ensemble, ça, comme je l'ai dit, ça a été un bon match. Il aurait pu tourner dans ma faveur, ça n'a pas été le cas. Je suis content de mon niveau en général, de ce que j'ai réussi à faire pour la préparation et j'espère pouvoir commencer à gagner des matchs rapidement.
Un des propos recueillis par nos confrères de la RTS, Stan Wawrinka a par ailleurs laissé planer le doute sur son avenir en lâchant qu'il s'agissait peut-être de son dernier Open d'Australie. Merci pour votre écoute et belle soirée.